Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma, réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Par Dominique Bénard. Bonjour Dominique.
Bonjour tout le monde.
Et par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Alors cette émission est un peu particulière car comme chaque année en mai, nous allons rendre compte à nos auditeurs du tout récent Festival de Cannes qui a fermé ses portes dimanche dernier. Le Festival de Cannes, c'est plus d'une centaine de films répartis sur 5 ou 6 sélections. Il est donc bien sûr impossible de tout voir, mais nous allons essayer de vous donner une idée de ce cru 2017 et vous parler des films qui nous ont marqués. Et nous allons commencer par l'impression générale que nous a laissé ce festival. Rappelons d'abord que les films sélectionnés viennent du monde entier et qu'ils donnent une image de l'état du monde où nous vivons. Et on peut dire que l'image donnée cette année n'était pas très optimiste, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, le journal Le Monde parlait hier d'un cinéma du chaos. Mais le festival donne aussi une vision de l'actualité de l'art cinématographique. Et de ce point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez pouvoir le dire, mais mon ressenti est un peu mitigé. Ce n'était pas un très grand cru au sens où il n'y avait pas beaucoup de films dont je sois ressorti en me disant « c'est un chef-d'œuvre ». Mais par ailleurs, il montrait une très grande diversité de formes cinématographiques, diversité d'ailleurs qui se reflète dans le palmarès, et ceci est plutôt réconfortant. Alors Marie-Jeanne, comment l'as-tu senti ce festival ?
Eh bien, oui, je partage ton opinion. C'est un festival qui n'est pas très marquant dans la sélection. On n'est pas sorti comme d'habitude en disant oui, voilà la palme ou voilà quelques films qui auront sûrement la palme ou qui se disputeront la palme.
Oui, ça manquait de chef-d'œuvre.
Oui, à part 120 battements, dont on était sûr qu'il aurait quelque chose d'important, un prix important, mais le reste, c'était vraiment. C'est vrai, c'était divers. C'était très international, une belle place au pays de l'Est aussi, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu décevant.
Jean-Michel, toi qui es un vieux routier du CAB.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, à savoir que c'est une sélection qui, en elle-même, est très moyenne, décevante, pour moi, carrément décevante. Et les films des réalisateurs déjà connus et déjà couronnés n'étaient pas leurs meilleurs films.
Oui, c'est vrai,
le plus souvent. Alors, on a eu des bonnes surprises ailleurs, comme tu l'as suggéré, c'est vrai. Deux autres points, c'est que pour moi, la palme est injustifiée, mais on en reparlera. Et on reparlera aussi, à l'inverse, du prix du jury œcuménique, qui, pour moi, est tout à fait légitime.
Dominique, toi, c'était ton premier Cannes, je crois, alors.
Voilà. Et évidemment, j'ai été éblouie par la diversité des films que nous avons pu voir, que ce soit dans la sélection officielle ou dans Un certain regard. Il y a des films de tous les pays, de tous les réalisateurs, avec plein de manières de filmer différentes. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi cette année, c'est quand même l'arrivée des séries dans ce festival, avec Twin Peaks et puis Netflix. Ouais. Donc, ça soulève des interrogations sur l'avenir de notre cinéma.
Oui, et parmi les thèmes, alors il y avait des thèmes qui revenaient quand même très fréquemment, la corruption dans beaucoup de pays, beaucoup de films aussi où des enfants étaient mis en scène, souvent dans des conditions d'ailleurs assez difficiles, beaucoup de portraits de femmes aussi, donc ça c'est assez intéressant, et notamment dans des pays où leur situation peut être un peu difficile, comme en Tunisie ou dans certaines régions de Russie. Bon, il y avait quand même beaucoup de choses dans ce festival, mais c'est vrai qu'on a peut-être été un petit peu déçus en termes de chef-d'œuvre.
Oui, il faut dire que quand on y va depuis un certain temps, on devient blasé.
Oui, c'est vrai, et puis qu'il y a des années particulièrement.
Donc il faut relativiser.
Il faut relativiser nos impressions, voilà. Alors, on va tout de suite passer à tout seigneur, tout honneur, au palmarès du jury œcuménique. Rappelons que ce prix est décerné chaque année par un jury de 6 membres, 3 catholiques, 3 protestants, et que les critères sont bien sûr la qualité artistique des films, mais aussi les valeurs humaines qu'ils portent. Alors cette année, donc, le jury œcuménique a primé Ikari, le film de Naomi Kawase, Vers la lumière en français. Alors Marie-Jeanne, c'est un film, je crois, que tu as aimé.
Alors oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Le jury œcuménique a récompensé ce film pour les raisons suivantes. Ce film a de grandes qualités artistiques, nous invite à la poésie, par sa poésie, à regarder et écouter plus attentivement le monde qui nous entoure. Il nous encourage au dialogue et à l'accueil de l'autre. Icarie nous parle de responsabilité, de résilience, d'espoir, de la possibilité, même pour ceux qui sont dans l'obscurité, d'apercevoir la lumière. Effectivement, Vers la lumière est un petit bijou comme seul Naomi Kawase sait en faire, avec sa patte très reconnaissable. Des non-voyants assistent à la représentation, à la présentation de films en audiodescription, et parmi eux, un ancien photographe qui, malheureusement, perd irrémédiablement la vue. Alors, la rencontre entre lui et la jeune femme qui leur décrit les films est d'une infinie délicatesse et suscite l'émotion sous fond de notes distillées par Ibrahim Malouf. Ce photographe essaye toujours d'utiliser son Leica à travers les...
Non, lequel... c'est un relais.
Ah non, oh, pardon, je parle de Leica. Oh, pardonnez-moi. Bon, à travers lequel, donc, il voit trouble. Et puis, insensiblement, les images disparaissent de sa vue au profit d'un nuage blanchâtre. C'est vraiment très poignant. Comme toujours, Kawase prend prétexte de ses films pour mener une réflexion sur le cinéma, sur la perception que l'on peut en avoir et sur la perception de la vie avec une intelligence profonde, une grande maturité. On ne se lasse pas de ces splendides images de grands arbres balayés par le vent dans une magnifique lumière qu'elle sait si bien donner à la nature. Elle nous dit... Voir un film, c'est une immersion dans un monde plus grand. Et c'est particulièrement vrai pour ces films, et je dois dire en particulier pour ce dernier.
Merci Marie-Jeanne. Alors, Dominique, tu en penses le même bien
ou... Oh, j'en pense beaucoup, beaucoup de bien. J'ai vu ce film avec, à côté de moi, une Japonaise habitant Cannes, et nous pleurions toutes les deux de concert. Donc, la sensibilité est internationale. C'est un très, très beau film qui donne beaucoup d'espoir quand on voit le chemin que parcourent les deux héros.
Jean-Michel, je crois que tu es d'accord.
Non, pas du tout. Moi, je suis très mauvais genre. Et ce film, dont tout ce qui a été dit est vrai, on peut s'y associer. Et je pense que le jury a bien fait de le choisir. Mais pour moi, ce n'est pas exactement ce que je cherche au cinéma, parce que je trouve que c'est trop consensuel, trop lisse, et que ça glisse petit à petit vers une espèce de mièvrerie qu'il y avait déjà dans ses films précédents, et qui me gêne, et qui finit au bout d'un certain nombre de minutes par m'ennuyer beaucoup. Et voilà, je regrette, mais moi je ne suis pas du tout ce film.
Je vais aller un peu dans ton sens, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est effectivement pas tellement l'histoire de Misako et du photographe qui m'a vraiment intéressé. C'est plutôt la question posée par l'audiodescription, c'est-à-dire en fait la question de l'interprétation de l'image, qui au fond est au cœur de l'analyse cinématographique, et du débat posé par ce film. Jusqu'où doit-on aller pour présenter une image? Oui. Doit-on dire, doit-on pas dire? Et cette partie-là m'a absolument passionné.
Ça, c'est passionnant, mais ça ne représente pas une place suffisante par rapport au reste.
C'est une assez bonne place, mais effectivement, c'est surtout au début, et après, la fin est... Peut-être, c'est plus du bon sentiment qu'on peut aimer ou pas aimer. Bon, alors nous passons...
Simplement dire que l'acteur principal, 40 ans après sa prestation dans un film pornographique d'Oshima, réapparaît dans un rôle extrêmement différent.
Non, il était déjà le vendeur de petits gâteaux dans
les délices
de Tokyo.
Donc
il avait déjà réapparu, Jean-Michel.
Oui, je suis pas sûr, c'est le même.
Ah, c'est le même, absolument. Bon, nous venons maintenant à la compétition, avec donc un film dont vous avez déjà compris qu'il était un peu... ils sont controversés, qui est The Square du Suédois Ruben Östlund. Alors moi, je suis ravi que le jury ait donné la palme à ce film, parce que j'avais beaucoup aimé The Square, et nous n'étions pas très nombreux de ce type, donc j'en suis ravi. Pour moi, c'est une fable qui met en scène donc un jeune conservateur de musée suédois, aussi élégant que les installations impeccables qu'il expose, et il croit profondément que l'art contemporain, par les messages conceptuels qu'il délivre, peut avoir un impact sur nos comportements sociaux. Donc il met en œuvre sa théorie en montant une exposition sur la fraternité. Il est brillant, il est rempli de bonnes théories, et il obtient facilement l'accord des généreux donateurs qui le soutiennent. Mais Le problème, c'est qu'il suffit qu'on lui vole son portefeuille pour que se réveille en lui une autre personnalité et que ses certitudes soient ébranlées et sa vie bouleversée. Alors ce film est une réflexion, à mon sens, pleine d'humour, mais peut-être avez-vous un avis différent, un humour un peu froid à la suédoise, sur la distance qu'il y a entre nos bons sentiments intellectuels et leur mise en pratique. Il est plus facile de théoriser sur la symbolique de fraternité du carré, le fameux square, que de parler à un immigré ou de traiter dignement un mendiant. Et on trouve aussi dans ce film une critique que j'ai trouvée désopilante du monde de la publicité sur le thème « Peut-on faire n'importe quoi pour faire parler de soi ?» Donc ça c'est un film, un aspect assez drôle du film. Donc je trouve que le jury a récompensé là une comédie assez sympathique sur nos sociétés occidentales qui donne à réfléchir mais qui est aussi à mon avis d'une assez grande qualité cinématographique. Alors, Jean-Michel, je crois que toi, tu n'es pas de cet avis.
Ah ben moi, ça m'a donné envie de mordre.
c'est grinçant.
Parce que je trouve qu'on est dans un entre-soi. C'est un jeu intellectuel pour nantis. C'est, je ne vois pas ce que c'est d'autre que ça. Et du reste, ça va ensuite très, très rapidement ennuyer. Je ne comprends pas bien comment on peut établir un contact avec un public, une large salle... par un film comme ça qui est très sophistiqué, qui chasse sur des... Oui, mais alors il en faut pour, effectivement, de tous les goûts, c'est normal. Mais là, vraiment, je suis resté complètement sur la berge de ce film et j'ai été tout de même surpris, compte tenu de sa réception au niveau français et international, de voir que, eh bien, il avait...
Dominique, même avis.
Ah oui, moi j'ai été très surprise de voir qu'il avait la palme, parce que je trouve que c'est un film qui a un gros défaut, c'est-à-dire que pendant une heure et demie, effectivement, c'est amusant, mais après, il tourne en rond.
Il est un peu long, il est un petit peu long.
Il est vraiment long, et il insiste avec une grande lourdeur sur le fait que les nantis ne sont pas toujours en accord avec leurs principes.
C'est le thème du film.
Voilà, chose que l'on savait déjà, donc c'est un peu lourd quand même.
Marie-Jeanne, de Mali.
Écoutez, oui, je suis de l'avis de Jean-Michel et Dominique, parce que j'avoue que j'étais très, très interloquée quand je suis sortie de ce film. Je ne savais vraiment pas quoi en penser. J'étais très, très surprise. Et ayant décanté un petit peu, je trouve d'abord qu'il y a une heure de trop, incontestablement. Et ensuite, j'espère que tous les musées n'ont pas ce genre de patron à leur tête.
Ça doit arriver.
Parce qu'on ne le voit jamais, au fond, s'occuper d'art. Quelques réflexions sur l'art contemporain qui sont intéressantes. Mais bon, à part sa quête de son portefeuille, ses petites aventures avec ses amis...
On va passer à un film que tu as plus aimé.
Vous avez compris.
Donc, le grand prix du jury a été donné à 120 battements par minute de Romain Campillo. Et je crois, Marie-Jeanne, que ça, tu l'as plus aimé.
Ah oui. Alors, c'est le troisième long-métrage d'un réalisateur français, donc Romain Campillo. Et il se situe dans les années 90. L'action se passe dans le cadre de l'association ACT UP, au moment où celle-ci menait des actions violentes, particulièrement en faveur des séropositifs, pour lutter contre l'inertie scandaleuse des pouvoirs publics de l'époque, et puis également contre les laboratoires qui, pour des raisons totalement mercantiles, ne donnaient pas suffisamment tôt le résultat de leurs recherches. Alors, de ce point de vue-là, c'est presque un documentaire, car on assiste à leurs réunions, à leurs divergences, souvent exprimées avec violence, à leur désespérance, face à la mort aussi qui les frappe inéluctablement. Cette immersion dans ces groupes d'homosexuels, en majorité atteints du sida, est sans aucune censure ni concession, mais les scènes d'amour sont tournées dans des couleurs sombres qui jettent comme un voile de pudeur. Par ailleurs, ce film est remarquablement interprété, il faut le dire, et en particulier par Nahuel Pérez Biscaillard. On pourrait se poser la question de son intérêt, car les problèmes soulevés sont aujourd'hui assez largement dépassés. Mais ce film est important. Important du point de vue de l'histoire, pour que ce passé de lutte et de souffrance ne tombe pas dans l'oubli. Et à cet égard, d'ailleurs, ce film est très pédagogique. Important aussi pour rappeler qu'il existe encore aujourd'hui des luttes de ce genre dans le monde, et l'actualité récente, malheureusement, nous le rappelle, et très douloureusement.
Dominique, Mabavie, tu ne l'as pas vu, Jean-Michel.
Oui, c'est un film courageux, militant, énergique, je souscris complètement, la mise en scène est très brillante. À mon sens, il est un petit peu long et quelquefois un petit peu répétitif, et surtout, la passion empêche qu'il y ait peut-être un débat sur les dangers des médicaments et un débat plus médical et une réflexion.
J'ai trouvé que là-dessus c'était un petit peu faible.
On ouvre une porte et
malheureusement on va pas très loin. C'est un peu la réserve que j'ai. J'ai la même réserve que toi sur ce film, mais sinon c'est quand même un beau film.
Tout à fait.
Le prix de la mise en scène donc a été donné au film Les Proies de Sofia Coppola. Dominique, tu nous en parles ?
Sofia Coppola est la deuxième femme à accéder à ce prix, la première étant la soviétique Yulia Solsteva en 1961, c'est-à-dire il y a 56 ans. La performance est donc remarquable. Ce film est un film historique, adapté d'un roman de Thomas Cullinan de 1966. Sofia Coppola a dit vouloir considérer dans cette histoire le point de vue des femmes. Alors, l'histoire, pendant la guerre de sécession, une demeure coloniale enfouie dans une forêt moite et brumeuse abrite un internat. Quatre fillettes et une adolescente y vivent sous l'autorité d'une directrice, Nicole Kidman, et d'un professeur, Kirsten Dunst. Elles recueillent un soldat ennemi, blessé, Colin Farrell, dont la présence affole les corps et les cœurs, provoquant un huis clos vénéneux, glaçant et tragique. Enfermé dans cette demeure refuge autant que prison, il est enivré, bousculé, dépassé par le désir de ces femmes et jeunes filles qui s'empressent autour de lui, rivalisant d'attention et de coquetterie. La guerre permet à ces femmes, corsetées au propre comme au figuré, d'être seules responsables d'elles-mêmes et elles ne s'interdisent rien. Dans ce film, qui ne manque pas d'humour noir, mais peut-être un peu de soufre, la mise en scène raffinée et élégante de ce groupe de femmes est réussie et les actrices sont parfaites.
Oui, c'est délicieusement pervers. Jeanne, ma vie.
Oui, c'est un film. Bon, incontestablement, Sofia Coppola sait faire du cinéma. Elle a été à bonne école. Son film est bien fait, bien construit. Mais.
On se régale quand même,
On
se régale.
Oui, mais.
Et puis c'est un peu plus léger que
mais
beaucoup
non,
de films.
Moi, ça m'a fait un peu l'effet d'une chronique sur papier glacé.
C'est très glacé, c'est. Oui. Moi, j'étais déçu aussi, un peu comme toi. C'est très glacé. On s'attend un petit peu à ce qui va se passer et on lui en veut de ne pas aller plus loin et de décevoir par rapport au film précédent qui était.
Oui, et puis il n'y a rien sur le contexte historique, comme d'ailleurs.
C'est un exercice de style.
C'était un assez bel exercice de style.
C'est faire du cinéma.
Ça fait penser un peu à un roman. Enfin bon. Alors, nous passons au prix du jury. Qui est donc décerné à un russe, Andrei Zviagintsev, pour Faute d'amour.
Oui, Faute d'amour, effectivement, c'est le cinquième long métrage de Zviagintsev, après, vous vous rappelez, Le Retour, Le Bannissement, Elena, Léviathan. Et l'un des films, à mon sens, les plus maîtrisés de ce festival, dans lequel la mise en scène et les images expriment superbement et impitoyablement le déchirement mortel d'un couple en train de divorcer. Son retentissement sur la vie de leur fils de 12 ans, dont la souffrance et le désespoir le poussent à disparaître, et la médiocrité du maillage d'une société russe rongée par l'individualisme et l'indifférence. La sévérité de ce portrait de ses compatriotes, qui peut sembler parfois friser la caricature, ne le fait que pour souligner l'égoïsme matérialiste d'une espèce humaine qui a perdu ses valeurs. Drame familial, mais aussi véritable thriller, dans sa deuxième partie, où les parents et l'institution sont à la recherche de l'enfant, ce film confirme le pessimisme noir de son auteur.
Ah oui, c'est froid et désespérant, mais c'est très maîtrisé.
Marie-Jeanne. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel. C'est un très beau film, mais toujours sur la déliquescence de la société russe qui est vraiment très très bien analysée. C'est un film très fort. Enfin, les dernières images sont vraiment là, glaçantes.
Dominique, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. Je trouve que c'est un très très bon film, évidemment désespérant, hein, mais magnifiquement filmé.
Tout à fait, oui. Là, nous avons à peu près un consensus. Donc, nous allons passer au prix du scénario. Alors, en fait, le prix du scénario, le jury en a donné deux films. Donc le premier, enfin le premier, il n'y a pas d'ordre, mais est la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Alors Yorgos Lanthimos est un cinéaste qui aime le bizarre et il signe un film que personnellement j'ai trouvé très réussi, mais qui met mal à l'aise, et il est d'ailleurs
le parfaitement conçu pour cela.
Bizarre et souvent morbide. Et donc il met en scène un jeune adolescent qui s'introduit dans la famille d'un chirurgien réputé. On peut pas rêver adolescent plus poli, plus attentionné que ce Martin, et pourtant le spectateur est immédiatement saisi d'une angoisse diffuse devant ce garçon à la voix douce mais au regard fixe. On sent qu'il y a quelque chose, un drame secret qui lie le chirurgien et Martin. Alors il y a une musique inquiétante, des couloirs étouffants, des prises de vue, donc tous les procédés bien connus, mais ils sont efficaces, ils augmentent le malaise du spectateur, alors qu'aucune menace réelle n'apparaît pendant la première heure. Puis évidemment le climat s'alourdit, un mal incompréhensible frappe les deux enfants, et le père coupable se trouve accusé d'un choix impossible, tel un Agamemnon moderne devant sacrifier Iphigénie, ce que évidemment rappelle le titre. Bon, Yorgos Lanthimos réalise ici un thriller, alors on peut aimer ou pas, remarquablement maîtrisé, où le fantastique est suffisamment ténu pour qu'on hésite jusqu'au bout entre une explication psychosomatique et l'intervention d'une puissance démoniaque. C'est une intéressante relecture d'un vieux mythe à travers un film de genre, mais on peut ne pas aimer. Donc, voilà. La discussion est ouverte.
Merci pour cette
autorisation. Oui, parce que je trouve que tu en parles avec vraiment une grande science.
Moi, j'ai bien aimé.
Oui, mais
moi, j'ai bien aimé, mais je reconnais que c'est un film de genre. Quoi, voilà.
Oui, tu es l'avocat de ce
l'avocat
film.
Du diable.
L'avocat du diable, dans lequel, moi, personnellement, j'ai absolument rien trouvé qui me retienne. Mais, et surtout, cette quête du bizarre et du moral qu'on avait déjà vu dans les films précédents. Rappelez-vous, Canine. Qu'on avait été quand même surpris de trouver au palmarès à l'époque. Oui. Et The Lobster, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais pas.
Deux ans, oui, deux ans.
Et bon, confirme que ce metteur en scène nous surprend et, je dois dire, ne me conquiert pas.
Oui, alors je serai très bref parce que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel. Je déteste ce metteur en scène. Je déteste ses films et celui-là ne m'a pas convaincu. Loin de là, au contraire,
il m'a convaincu dans
ma détestation.
Oh ben moi, j'ai trouvé que tout un film pour la loi du talion et pour œil dent pour dent, c'est beaucoup.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison là-dessus. Simplement, mais Lanthimos est un cinéaste extraordinairement clivant. Il y a ceux qui adorent sa bizarrerie et ceux qui détestent. Il y en a plus qui détestent que ceux qui adorent, mais ceux qui adorent aiment bien, quoi. Et voilà, donc je pense que c'est quand même un film qui vaut la peine d'être
vu. Tu es en minorité,
Je suis en minorité. Mais j'ai le jury avec moi, heureusement.
Ah oui.
Le deuxième film pour le prix du scénario était You Were Never Really Here de Lynn Ramsay. Donc, qui est une Britannique.
C'est une Britannique née à Glasgow en 1969 et qui a déjà été primée à Cannes pour deux de ses courts-métrages. Ce film d'action est son quatrième long métrage, elle ne tourne pas énormément, adapté d'un roman de 2013 de Jonathan Ames, qui est également un auteur de séries TV. Alors Joey est un vétéran américain qui travaille comme homme de main et il est chargé de récupérer Nina, fille d'un sénateur, enlevée par un réseau de prostitution. Joey récupère facilement Nina, mais tout se complique. Le sénateur est suicidé, Nina enlevée de nouveau, et de meurtre en rebondissement coulent des flots d'hémoglobine jusqu'à une fin peut-être féministe. Si les personnages nous rappellent tous les stéréotypes des séries télé, sénateurs corrompus, vétérans tueurs, jeunes filles en fleurs, victimes des pédophiles, on peut reconnaître à Lynn Ramsay une mise en scène virtuose, alternant des scènes de violence où Joey massacre à coups de marteau ceux qui le gênent, avec des scènes de douceur où ce gros nounours s'occupe de sa vieille maman. Des flashbacks nous laissent entrevoir quelques raisons du mal de vivre de Joey, violence paternelle, guerre, etc. Somme toute, rien de très original. Joaquin Phoenix compose un personnage quasi muet, mais impressionnant de présence physique et qui lui a valu le prix d'interprétation.
Oui, oui, je pense qu'on sera d'accord pour dire que... Moi, je n'ai pas beaucoup aimé ce thriller. Je comprends pas très bien ce que fait Joaquin Phoenix avec un marteau à la main. D'ailleurs, lui-même n'a pas l'air de comprendre non plus ce qu'il fait. Oui. Mais c'est un film de genre, après tout.
Mais si on n'a pas lu, si on n'a pas lu le synopsis avant, on ne comprend pas tout ce qu'a dit Dominique, qui est extrêmement éclairant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que je n'y ai pas vu tout ce qui est...
Ça manque un peu d'humour et de second degré. Bon, on va peut-être s'accorder une petite pause musicale pour nous soulager après ça.